France Inter.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une de ce 13h, l'or bleu, l'eau douce potable plus rare sur la planète, continuerons-nous à la payer relativement peu cher en France? Nous poserons la question à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Notre invité sera Thierry Burlot, le président du Cercle français de l'eau. En Turquie, jusqu'où ira la colère de la population qui manifeste depuis mercredi contre l'arrestation du maire d'Istanbul, opposé au régime? Nous serons en direct d'Istanbul. En France, plus d'une centaine de manifestations à travers le pays contre le racisme. Et puis nous verrons qu'il n'est pas toujours facile de se prénommer Kevin, source de raillerie parfois. Eh bien, c'est l'objet d'un documentaire que nous évoquerons en fin de journal. Il y aura aussi les bonnes ondes de Sandrine Houdin pour les nostalgiques du circuit 24 des courses de voitures miniatures. On appelle ça des slots. Nous irons au Dijon Racing Slot.
Alors moi, j'ai une Subaru, tu vois, le moindre petit bout de ligne droite, tu accélères et là, elle freine.
Et après ce journal Secret d'Info, magazine d'investigation, Benoît Colomba, sur quel thème ?
Eh bien, nous allons revenir sur le scandale des violences, des agressions sexuelles et des viols au sein de l'établissement catholique privé Notre-Dame de Bétarame dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons retrouvé les principaux témoins de cette affaire, une affaire dans laquelle les victimes ont longtemps gardé le silence.
À tout à l'heure, Benoît. Le temps de ce samedi, Céline Dacosta, le ciel sera agité cet après-midi.
Oui, un petit peu plus agité que ce matin, avec toujours ce ciel changeant, des averses plus nombreuses et des orages localement forts sur le centre du pays.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
On les appelle les châteaux d'eau, tous ces glaciers qui stockent environ 70% des réserves mondiales d'eau douce. Or, de manière générale, leur fonte s'est accélérée ces dernières décennies, conséquence du réchauffement climatique. C'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'eau. Nous partons sur le mont Kenya qui n'a plus que 4% de l'étendue glaciaire qu'il recouvrait en 1900. Reportage de notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir.
Les sentiers du mont Kenya, Joshua Wachira les parcourt depuis 40 ans, comme porteur d'abord, puis en tant que guide jusqu'au sommet, à 4985 mètres. En 4 décennies, ce sommet, il l'a vu changer. C'est le constat qu'il dresse, à 4200 mètres, juste avant l'ascension finale. La saison sèche touche à sa fin, et face à lui se tiennent des pics à peine saupoudrés de neige et des vallées rocailleuses.
The mountain was not the same as we see now. It was very cold.
À mes débuts, la montagne ne ressemblait pas à ce que l'on voit aujourd'hui. La couche de neige s'élevait jusqu'à 90 cm. Autour des sommets, face à nous en ce moment, tout était recouvert de glaciers. À mesure que les glaciers ont fondu, les rivières sont devenues moins abondantes. On le voit autour de nous, elles ressemblent plus à des petits ruisseaux, mais à l'époque, elles débordaient et il pleuvait presque tous les jours. Ça a vraiment changé et cela me rend triste. Ce n'est plus la montagne que je connaissais.
Des changements qui ont des conséquences sur la préservation de la montagne et sur son écosystème, et ce, alors que ce qu'il reste des glaciers du mont Kenya pourrait disparaître d'ici 2030, d'après l'Organisation météorologique mondiale, d'ici 2040 pour ses voisins, le mont Kilimandjaro en Tanzanie et les monts Rwenzori en Ouganda. À Nairobi, Alban Tiroir, France Inter.
L'eau qui se raréfie donc sur la planète, avec quelles conséquences en France? Bonjour Thierry Burlot.
Bonjour.
Vous êtes le président du Cercle français de l'eau, cercle de réflexion qui regroupe des élus pour faire des propositions sur l'avenir de l'eau en France, ancien vice-président de la région Bretagne. Alors, l'eau de notre robinet n'est pas très chère aujourd'hui en France, mais on entend que son prix pourrait finir par augmenter. Pour quelle raison ?
Bah écoutez, on doit faire face aujourd'hui au dérèglement climatique. Alors, évidemment, pas avec la même force que le reportage vient de nous démontrer, mais ici, le dérèglement fait son œuvre et on passe de sécheresse à inondation. Et malheureusement, les problèmes de qualité sont toujours là. Et on a vu à travers les épisodes de sécheresse que l'on a pu vivre ces derniers mois, et ben qu'on n'était pas à l'abri non plus en France d'avoir des soucis d'accès à l'eau.
Et vous parliez de la qualité de l'eau. Est-ce que cette qualité de l'eau potable est garantie en France ou bien est-ce qu'on doit en douter ?
Ben écoutez, on a longtemps pensé que cette eau était inépuisable. Et on savait qu'elle était altérable. Et aujourd'hui, plus il y a une tension sur la ressource en eau, plus il y a de sécheresse, plus il est difficile d'obtenir de bons résultats en matière de qualité. Je rappelle qu'en France, 30% des masses d'eau seulement sont conformes dans les fleuves. ce qui veut dire que 70% des masses d'eau ne sont pas conformes. Et on a affaire de plus en plus à de nouveaux problèmes. On connaît les métabolites des pesticides, on connaissait les nitrates, on connaissait la pollution bactériologique. Maintenant, on nous parle de PFAS. Vous voyez, toutes ces pollutions qui étaient un peu inconnues jusqu'alors, eh ben aujourd'hui, on les retrouve dans nos eaux. Les fleuves ne nous redonnent que ce qu'on leur donne. Voyez. Donc aujourd'hui, on doit faire face à des enjeux de quantité, mais aussi et toujours à des enjeux de qualité d'eau.
Vous parlez de PFAS, hein, ce sont les polluants éternels. Travail urgent de décontamination de l'eau. Est-ce que c'est au consommateur de régler la facture ?
Ben non, bien sûr. Ben non, bien sûr. Et le principe pollueur-payeur doit s'appliquer autour de ces questions-là, parce que sinon on va jamais y arriver. Vous l'avez dit tout à l'heure, le prix de l'eau va devoir évoluer. On est devant une montagne d'investissement. Hein. Il va falloir continuer à améliorer la qualité de l'eau, continuer à améliorer l'épuration, renouveler nos réseaux. Tout ça, ça a un coût. Et en plus, il va falloir faire face aux conséquences du dérèglement climatique. Et aujourd'hui, les conséquences du dérèglement climatique sont très très importantes. On parle de plusieurs milliards d'euros par an. Donc aujourd'hui, si on veut anticiper tout cela, il faut qu'on soit à la hauteur. Et ce ne sont pas aux collectivités et encore moins aux consommateurs d'aller payer des pollutions qui sont liées à des mauvais usages de produits.
Et est-ce que le principe d'un pollueur-payeur fléché vers l'eau est une idée politiquement qui a le vent en poupe aujourd'hui ?
Bah, écoutez, je crois qu'il va falloir malheureusement en arriver là, parce qu'encore une fois, il faudra, sur ces polluants éternels, trouver les moyens de pouvoir les traiter et pouvoir garantir à nos consommateurs une eau de qualité au robinet. C'est un enjeu majeur pour les collectivités territoriales. Il faut qu'on soit à la hauteur, mais ce n'est pas forcément aux consommateurs de payer toute l'addition.
Alors pour aller au bout de choses, concept de pollueur-payeur, ce sont les agriculteurs accusés de polluer l'eau qui seraient les premiers concernés ?
Ben vous savez, les agriculteurs font déjà un effort sur le sujet. C'est vrai qu'ils sont toucher beaucoup plus que les autres encore face au dérèglement climatique. Il va falloir s'adapter, il va falloir prendre des mesures. Et les agriculteurs, comme les industriels, devront prendre leur part dans le financement de ces surcoûts.
Est-ce que le principe du pollueur-payeur ne serait pas aussi finalement un droit d'autoriser à polluer ?
Très sincèrement, c'est ce qui m'embête un peu dans cette règle du principe pollueur-payeur. Parce que vous savez, à partir du moment où vous payez une redevance, vous payez quelque part un droit à produire. Et ça, c'est un droit à polluer, pardon. Et ça, c'est pas acceptable.
Eh bien, merci de ce témoignage. Thierry Burlot, président du Cercle français de l'eau. Je rappelle que c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'eau.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
En Turquie, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, maire d'opposition au régime, devait être de nouveau entendu ce matin par la police. Il a été interpellé mercredi à l'aube à son domicile. Et depuis, les manifestations se succèdent avec un rassemblement monstre de 300 000 personnes hier soir à Istanbul. Plus de 340 personnes arrêtées hier dans le pays, dit ce matin le ministre turc de l'Intérieur. Et un autre grand rassemblement est attendu en fin de journée, toujours à Istanbul, où vous êtes, Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour à vous.
La contestation qui se répand en Turquie dépasse désormais le seul sort du maire d'Istanbul.
Oui, les partis d'opposition qui font corps derrière İmamoğlu, tout comme les manifestants chaque soir plus nombreux depuis mercredi, tous sont bien conscients que ce qui se joue, c'est le sort de leur pays, de la démocratie. Sur les pancartes est écrit « Si tu restes silencieux aujourd'hui, ton tour viendra demain », un slogan repris par la foule des manifestants. Jusqu'à présent, nous étions dans un pays de plus en plus autoritaire, avec une presse muselée, un état de droit mis à mal, mais les élections étaient relativement sincères. Aujourd'hui, en faisant arrêter et peut-être même emprisonner dès ce soir le populaire maire d'Istanbul, qui a été largement réélu il y a un an, le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan bascule dans une autocratie où même le résultat des élections peut être effacé, où chacun sent qu'il peut désormais être arrêté de manière arbitraire. C'est une ligne rouge, visiblement, pour le peuple turc qui a été franchi.
Mais Marie-Pierre, ce mouvement de contestation ne concerne plus seulement les grandes villes hostiles au régime de Erdogan.
En effet, au-delà de ces grandes villes, toutes remportées par l'opposition lors des municipales du 31 mars dernier, les gens sont descendus dans les rues de Trabzon, par exemple, sur les bords de la mer Noire. C'est un fief de l'AKP, le parti du président. Et même à Konya, dans le centre du pays, très conservatrice, des agriculteurs ont défilé sur leurs tracteurs. Cette contestation, malgré le fort déploiement policier, gagne donc au-delà aussi des étudiants, fer de lance du mouvement. Dans les cortèges, ils ont été rejoints par des ouvriers, des employés, par leurs parents, par de très nombreux Turcs qui avaient abandonné la rue mais qui se disent qu'il faut se mobiliser aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard.
Et on reviendra sur France Inter ce soir à Istanbul pour évaluer cette nouvelle manifestation dont on dit qu'elle serait là aussi monstre ce soir à Istanbul. Merci Marie-Pierre Véro en direct donc de Turquie. Des frappes en cours au Liban depuis que Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée israélienne de frapper des dizaines de cibles qualifiées de terroristes au Liban en réponse, dit-il, au tir de roquettes à partir du Liban. Au moins une femme a été tuée ce matin. L'ONU se dit préoccupée par une possible escalade, 4 mois après un accord de cessez-le-feu. L'Allemagne donne son feu vert au réarmement et la modernisation de sa défense. Le plan géant d'investissement du futur chancelier Friedrich Merz vient d'être adopté au Parlement. Et alors qu'on discute d'un rapprochement militaire entre pays européens, la question des avions de chasse en Allemagne continue de faire débat. Bonjour Nathalie Versieux.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Berlin. Alors, sachant que le bouclier américain n'est plus une évidence, l'Allemagne s'entête à vouloir acheter des avions F-35 américains et ça fait donc polémique.
Oui, à droite, on demande même l'annulation pure et simple de cette commande de 10 milliards d'euros pour 35 appareils. Washington, assure un député, pourrait paralyser l'aviation allemande en refusant de livrer pièces de rechange et munitions, voire en modifiant le logiciel des appareils. Après des jours d'intenses discussions, le gouvernement Scholz rétorque aujourd'hui. Le ministre de la Défense, le social-démocrate Boris Pistorius, souligne que le F-35 est un projet multinations impliquant jusqu'au numéro 1 allemand de la défense Rheinmetall. Les Américains sont et restent un important allié, insiste le ministre. Mais la balle sera bientôt dans le camp du futur chancelier Friedrich Merz. En attendant, les travaux se poursuivent à Büchel, le chantier le mieux protégé d'Allemagne à l'ouest du pays. Une base aérienne sort de terre alors que les premières livraisons sont prévues pour 2026.
Et cette nuit, Donald Trump, 47e président des États-Unis, retenez le 47. Donald Trump a annoncé la signature d'un contrat avec Boeing pour une nouvelle génération d'avions de combat furtifs baptisés F-47. À Londres, l'aéroport d'Heathrow est depuis ce matin pleinement opérationnel. Il avait été fermé hier en raison d'un incendie entraînant une grosse journée de chaos dans cet aéroport parmi les plus fréquentés au monde. Le pape semble aller un peu mieux. Le Vatican va même jusqu'à annoncer ce matin une apparition publique de François demain. Ce serait la première apparition depuis la mi-février. Je rappelle que le pape est hospitalisé pour une double pneumonie. Plus d'une centaine de manifestations contre le racisme aujourd'hui un peu partout en France, comme chaque année ou presque. Mobilisation un peu éclipsée cette année par la polémique sur l'affiche de LFI avec une caricature jugée antisémite de Cyril Hanouna. LFI a même été condamnée hier par la justice pour cette caricature. LFI qui annonce d'ailleurs faire appel ce matin. Cette affiche, eh bien, c'est une grave erreur du leader de la France insoumise, déplore ce matin Clémentine Autain, ex-insoumise, devenue députée écologiste et sociale de Saint-Denis.
La polémique autour de cette affiche a pollué l'appel à cette journée. Là, c'est une erreur de Jean-Luc Mélenchon de communication et de la direction de la France insoumise qui a manqué de clarté. C'est un dérapage, c'est une erreur manifeste. Jean-Luc Mélenchon ne me paraît pas à la hauteur du moment de ce point de vue-là parce qu'il ne reconnaît pas que c'était une erreur, qu'il met cela uniquement sur le dos d'une campagne de l'extrême droite qui, en effet, en profite, évidemment, pour le faire. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande à la France insoumise, c'est de la clarté dans le combat contre l'antisémitisme et la responsabilité de la gauche, c'est d'être irréprochable sur tous les sujets qui touchent à l'égalité, pas l'identité.
Clémentine Autain, députée écologiste et sociale de Seine-Saint-Denis. En boxe, il a été la légende des poids lourds dans les années 70. L'américain George Foreman est mort, il avait 76 ans. L'un de ses combats mythiques a été sa défaite contre Mohamed Ali en 1974. Il y a, selon les modes, des prénoms plus faciles à porter que d'autres. Et on a une pensée émue pour les Kevin, source de nombreux clichés. Il aura donc fallu une bonne dose d'autodérision pour ce réalisateur qui s'appelle Kevin Fafournou. Son documentaire explore justement les raisons de ces clichés. Sauvons les Kevin, c'est le titre de ce documentaire diffusé à partir d'aujourd'hui sur Paris Première. Il y a eu aussi une projection en avant-première. Fanny Imbert y a assisté dans une salle donc remplie de Kevin, évidemment.
C'est quoi ton prénom ?
Kevin.
Il fait partie de ces prénoms qui ne laissent pas indifférent.
Gros kéké, gros lourdeau, à draguer les meufs.
Peut-être pas très stylé, quelqu'un de la campagne aussi.
Grâce à Kevin Costner, au petit Kevin McAllister de Maman j'ai raté l'avion ou de la fièvre des boys band américains, il est le prénom le plus donné dans les années 90 des petits Kevin qui aujourd'hui doivent jongler entre second degré et autodérision.
C'est un peu comme avoir une maladie que tout le monde a remarqué, mais bon, on fait comme si c'était chill, quoi.
Bah, sur les applis de rencontre, ça m'est déjà arrivé, ouais, de prendre un autre nom. Je pense que j'ai plus à prouver qu'une personne nommée, ouais, Étienne, Augustin, lors d'un entretien d'embauche par rapport à ce que ça symbolise.
Pourtant, à l'origine, Kevin est un prénom gaélique très apprécié en Irlande. Mais comment est-il devenu un synonyme de mauvais goût ? Avec plus de 500 témoignages, Kevin Fafournou, le réalisateur, a mené l'enquête. Et pour lui, ça a à voir avec la sociologie.
C'est une émancipation des classes populaires ou moyennes qui, dans les années 90, choisissent des prénoms américanisés, issus d'une pop culture américaine grandissante, qui était très très mal perçue par les classes supérieures. Et c'est ce qui a donné lieu au racisme de classe. Comme mon prénom a été massivement donné, qu'il a été un véritable phénomène de mode, il est devenu le vrai symbole de ce mauvais goût.
Un documentaire introspectif et drôle pour décortiquer les clichés et peut-être un peu sauver les Kevin.
Sauvons les Kevin, donc sur Paris Première à partir d'aujourd'hui. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin pour une course de bolide sur circuit, mais une version Tom Pouce, ça existe. Pour les nostalgiques des circuits 24, on parle de slot, ça veut dire fente, comme la fente qui guide la voiture sur les rails plastifiés. Sandrine nous conduit à Dijon, au Dijon Racing Slot, qui organise des rallyes. Nous sommes avant le départ, c'est le tour de chauffe, avec Sébastien, slotteur aguerri.
Un tour, deux tours, trois tours, Sylvain ne quitte pas sa voiture des yeux, de petits personnages l'acclament dans les mini-tribunes, il y a même un petit bonhomme avec un bras articulé qui porte le drapeau à damier.
Alors moi j'ai une Subaru, tu vois, le moindre petit bout de ligne droite, tu accélères, et là, elle freine.
Tu nous vois tout le temps actionner la gâchette comme ça pour freiner la voiture.
Ah ouais.
Le plus important, c'est de pas sortir. Parce que on est pris jusqu'au centième. Là, par exemple, ici, juste au départ, derrière, on a juste un virage. Là, le petit coup d'accès, il faut vraiment le doser, quoi.
Sorti.
Sortie de piste, voilà.
Donc, je vais appeler un membre de chaque groupe.
Allez, vite, au stand pour les derniers réglages.
Vous avez quoi, là ?
Il y a différents types de vis.
Pour faire quoi, ça ?
Ici, vous voyez, on a du jeu. Entre le châssis et les roues.
Ah oui, ça bouge.
Voilà.
Vous démontez tout, là.
Oui, oui.
Qu'est-ce que c'est que tout le reste, là ?
J'ai des pneus différents, j'ai différents types de tresses.
C'est quoi ?
Les tresses, c'est ça. C'est ce qui nous permet d'avoir le contact entre la voiture et le rail. Donc, on a des petites brosses spécifiques.
Mine de rien, c'est minutieux.
Bah, bien sûr.
Les roues, par exemple, minuscules.
J'ai fabriqué un support donc avec du papier de verre. J'ai mis une alimentation en 12 volts et je pose mes pneus sur le papier de verre et je les use.
Pour une meilleure adhérence.
Exactement, c'est plus de performance.
Combien de voitures, en fait ?
En tout ? Je sais pas, chez moi, j'en ai une cinquantaine.
Ah, carrément ?
Quasiment toutes les marques. Tu vois, je viens de racheter une voiture encore. C'est un virus à la con.
À la con, mais pas pour débile, il y en aura le bol, dit-il, des étiquettes.
Des gens nous disent comme ça, oh, tu joues petite voiture, tu fais jouer avec tes petites voitures. Des fois, j'ai envie de leur...
Rentrer dans le châssis.
Ah oui, un peu ça. Ouais. Et c'est totalement faux. C'est ça qui est dégueulasse. C'est le jugement, moi, qui m'agace. Faut arrêter de se prendre au sérieux, voilà.
Et ça fait du bien.
Oh, on est bien, ouais. On déconnecte de tout, quoi.
Est-ce que c'est pas aussi combler une frustration ?
Oh, le sourire.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, on peut piloter des super voitures. À l'échelle 1, c'est inabordable, tu peux pas conduire ça. Alors que sur circuit, on peut conduire toutes les voitures qu'on veut, quoi.
Et comme les grandes.
On fait des courses de 24 heures.
Sans s'arrêter.
Sans s'arrêter. Les voitures, il faut qu'elles soient équipées de phares et on tourne toute la nuit.
C'est du délire.
Oui. Si t'arrives à faire changer les gens, leur montrer qu'on joue pas aux petites voitures,
qu'est-ce que je gagne? Une Ferrari.
Pourquoi pas?
Et donc chaque équipe se positionne devant son circuit.
Il va falloir que j'y retourne.
Ok. Ouais. Je vous laisse faire joujou avec vos petites voitures.
Non. Non. Tu me laisses faire du slot.
Et on suivra le départ de cette course donc demain dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tentes et cabanes en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On aura un peu plus d'averses cet après-midi.
Oui, la perturbation se renforce. Alors on a toujours ce ciel de traîne, hein. Vous savez, nuages nombreux, quelques éclaircies ici ou là et des averses localement soutenues et parfois orageuses, accompagnées de bonnes rafales de vent sur l'ouest et le sud du pays. Enfin, du vent beaucoup moins que ces 24 heures, hein, mais des rafales comprises encore entre 70 et 90 km à l'heure. Ce sera juste un petit peu plus calme, avec normalement un peu plus de soleil entre le nord des Alpes, le nord-est et en remontant le long des frontières du nord vers les Hauts-de-France. Là où on aura les orages les plus forts, c'est entre la région centre et l'Auvergne, avec des chutes de grêle possibles, de la neige même, hein, sous ces averses à basse altitude sur l'Auvergne. Ces orages vont se décaler dans la soirée sur la région PACA et remonteront également vers l'Île-de-France. Notez qu'on aura également de bonnes averses toute l'après-midi sur les Cévennes.
Et les températures restent bien douces.
Oui, ça commencera à baisser doucement demain, mais cet après-midi, la moyenne va encore de 14 à 21 degrés, mais évidemment, le ressenti sera quand même plus frais sous la pluie ou à cause du vent, qui va encore bien souffler, surtout sur l'ouest et le sud du pays.
C'était Céline Dacosta.